d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir je suis avec Ludo, bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Gilles au micro et Sémi exceptionnellement à la technique, merci à lui d'être avec nous ce soir. Ce soir nous parlerons principalement donc du grand débat voulu par Macron qui a rencontré à différentes reprises les maires, les jeunes, les intellectuels. Qui nous a fait donc, qui a agi un peu comme un paon devant son auditoire, puisque les gens levaient le doigt pour pouvoir poser des questions. Donc, comme débat, c'était plutôt un enfumage. Mais Ludo, dis-moi pourquoi tu as fait cet enregistrement alors.
Oui, c'est parce que le président, donc effectivement, a fait ce débat suite à, en réaction au mouvement des Gilets jaunes. Dont on sait évidemment que il se passe dans un certain cadre et qu'il n'est pas question de déborder du cadre, que les principes du macronisme ou d'appétit de Macron sont fixés, hein, c'est-à-dire grosso modo, libéraliser la croissance, c'est le slogan de Jacques Attali, et donc on en parlera. Et il a fait dedans un débat avec les intellectuels, les grands intellectuels, sur France Culture, c'était le 18 mars. Alors c'était intéressant à plus d'un titre, parce que d'abord c'est la première fois qu'un président fait ça, donc on a quand même l'impression qu'il accepte d'échanger, hein, et de donner son avis sur la question. Mais évidemment, c'est toujours un peu ambigu, puisque on peut se dire que les intellectuels qui étaient présents lui servaient légèrement de caution. Hein, voilà. Et donc, heureusement... Tous les intellectuels qui sont venus n'étaient quand même pas posés des questions qui pouvaient être dérangeantes. Et donc, notamment, j'ai noté qu'il y avait un dangereux gilet jaune infiltré au cours de ce débat. Oui, oui.
Parmi les intellectuels.
Parmi
donc,
les intellectuels, oui, un gilet jaune qui visiblement manifestait avec les gilets jaunes pour réclamer le rétablissement de l'ISF ou quelque chose qui s'approche de ça. Oui, c'était très étrange. C'était un gilet jaune, donc il s'appelait, c'était un certain monsieur Daniel Cohen, qui est professeur d'économie à l'école normale.
D'accord.
Et manifestement, cette personne, ma foi, a bien des opinions gauchistes, et on va l'écouter.
Très bien, on écoute.
Peut-être sur la question des inégalités, Daniel Cohen, économiste.
Monsieur le Président, bonsoir, merci de votre invitation. Pour prolonger un peu cette discussion, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être un tout petit peu de recul sur les grandes transformations que le capitalisme contemporain est en train de connaître, puisque au fond, ce dont on parle presque toujours, et certainement quand on essaie de comprendre les origines du malaise politique et social, c'est ce sentiment nouveau d'insécurité économique qui traverse, pour le coup, toutes les sociétés avancées, la France et tous les autres pays qui aujourd'hui sont soumis, on va dire, à la tentation populiste. Pour comprendre les sources de cette insécurité politique, économique, il faut, je crois, essayer de prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont le capitalisme contemporain est en train de se transformer. Nous comprenons tous, nous savons tous qu'il est en pleine mutation. Et au fond, la question, si on essaie de se projeter dans les 30 ou 50 prochaines années, qui était l'exercice qu'on m'avait demandé de réfléchir au départ, on voit qu'il y a en réalité deux scénarios et que c'est très très difficile de savoir si on pourra avoir l'un ou l'autre et surtout si on pourra piloter l'un pour éviter l'autre. Le premier scénario, c'est le retour à une croissance inclusive, comme celle qu'on a connue dans les 50 années, on va dire, d'après-guerre, où tout monte en même temps, au même rythme, et au fond, tout ce qu'on a à faire, c'est gérer la prospérité, essayer de réfléchir à la meilleure façon d'en faire le meilleur usage. Il y a un autre scénario qui serait plutôt un scénario de retour à ce qui s'est observé, on va dire, au début du capitalisme, au début du 19e siècle, avec une formidable transition, une formidable mutation du capitalisme, et sur fond de croissance très faible. Sans faire une leçon d'histoire économique, les économistes aujourd'hui qui sont revenus sur le taux de croissance de la première moitié du 19e siècle en Angleterre, par exemple, ont été étonnés de voir que les chiffres étaient très faibles, entre 0,5 et 0,7%, alors même que la société était totalement en train de se transformer. Alors, lequel des deux choisir? Évidemment, tout faire pour avoir le scénario A, mais si on est dans une période de transformation comme celle du scénario B, alors tout devient beaucoup plus compliqué, et d'une certaine façon, on pourra toujours, bien entendu, essayer de faire un peu mieux que les autres, mais on sera entraîné dans cette vague irrépressible. Alors, les économistes, évidemment, sont très divisés sur la question de savoir si on peut parier sur le A ou sur le B, mais si on fait juste une observation, que pensent les marchés financiers financier de ces deux scénarios. Si par exemple on regarde le coût de la dette à long terme de la France, à 50 ans, la France se finance à 50 ans à 1,7%, c'est-à-dire moins que l'inflation anticipée. Ça veut dire que les marchés financiers parient plutôt sur le scénario B, d'une croissance faible, d'une inflation faible, et donc d'une montée de tous les déséquilibres que cette croissance faible va entraîner. Alors, la question, au fond, elle est assez simple. Si on doit se préparer à faire face à un scénario un peu catastrophe de croissance au fil de l'eau, de paupérisation nouvelle, on va dire, du travail et des classes populaires, alors on ne peut pas se dispenser d'une réflexion en profondeur sur les instruments qu'on pourra mobiliser pour faire face à ce scénario. Et avec une croissance si faible, je reprends les statistiques que Thomas Piketty avait produites dans son livre, avec une croissance de 1% l'an par exemple, la part du capital hérité ne va cesser de croître, puisque le rendement du capital est beaucoup plus élevé que ce taux de croissance. Et aujourd'hui, on est déjà, comme vous le savez, dans un capitalisme quasiment d'héritier, puisque les deux tiers du capital, du patrimoine détenu en France, est hérité, alors que c'était moins de 45% au début des années 70. À ce rythme-là, on va converger vers des rythmes où à 80 à 90% le patrimoine sera hérité parce que la logique de la croissance ne permettra plus l'accumulation de nouvelles richesses. Donc, première question, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine? Peut-on, en comprenant très bien que l'ISF avait beaucoup de défauts et en particulier celui d'inciter en quelque sorte les héritiers à travailler eux-mêmes pour y échapper, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine, de sa transmission? Les économistes ont beaucoup d'idées là-dessus, une flat tax au-dessus d'un certain seuil, grande assiette, petit taux, mais il me semble difficile d'échapper à une réflexion comme celle-là dans la perspective qui pourrait être celle du scénario B dont je parlais tout à l'heure. Une deuxième, petit deuxième codicille, c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, si l'insécurité économique devait rester la norme, alors il faut réfléchir évidemment à d'autres instruments de ce côté-là. Les réflexions ici nous pointent vers le revenu de base, revenu universel pour certains. Et j'ai été un peu peiné de voir que les 18 départements qui avaient fait une proposition d'expérimentation sociale sur ce terrain n'ont pas pu la mener à leur terme. C'est dommage parce que c'était au fond la rencontre d'une expérimentation locale qui peut correspondre à une attente justement de démocratie participative. On essaye quelque chose et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question de l'insécurité économique dont je parlais au départ.
Merci. Daniel Cohen, une réponse.
Oui,
bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et donc c'est bien dans l'émission FPP. Alors vous venez d'entendre Monsieur Daniel Cohen, qui est professeur à l'école normale tout court, professeur d'économie. Alors vous entendez que le propos est poli, bien élevé, voilà, mais enfin que quand même il dit des choses...
Clairement, assez, on va dire.
Assez dur, hein, ouais, hein, il parle, il donne des chiffres, donc ouais. Reprenant d'ailleurs le travaux de Thomas Piketty, bon, peut-être que à terme, on est sur un rythme d'1% de croissance, bon, c'est un économiste, alors il explique que dans les années 50, moins de 40% du capital était hérité.
C'est ça.
Et qu'aujourd'hui, on est aux deux tiers.
On est à 90% aujourd'hui, apparemment.
Non, deux tiers. Et que, d'accord. Par contre, à ce rythme, et si on continue là-dessus, dans une bonne trentaine d'années, on sera à 90%.
Tout à fait.
Donc, effectivement, il reprend ce que dit Thomas Piketty, c'est-à-dire en période de croissance lente, le capital, c'est le capital, en fait, qui rapporte plus que le travail. Et donc, Karl Marx a dit ça d'une autre façon. Il a dit, grosso modo, qu'on exploitait l'ouvrier, mais aussi, par exemple, le locataire. Vous voyez, c'est-à-dire que la rente, l'économie de la rente, en France, on connaît bien ça, l'économie de la rente était rapportait toujours plus, hein, finalement, que le travail, et qu'on s'acheminait vers ce système-là. Et vous l'avez entendu, il a continué son propos, bon, l'air de rien, il va poser quand même la question d'une taxe sur le capital. Et puis, il parle aussi du revenu de base, tant qu'on y est, hein. Ils sont un peu socialistes, ces gens-là, voilà. Et donc, tout ça fait quand même que c'est des gens quand même qui sont un peu gauchistes, un peu crypto-marxistes. Et donc, on va écouter la réponse du président maintenant.
Ah, très bien.
Une réponse, monsieur le président de la République.
Oui, alors je voudrais pas que ça se transforme en dialogue. C'est à vous, non, mais c'est après, c'est à vous de voir
là,
comment vous voulez organiser.
C'est un propos assez dense, merci,
non, non, non.
Daniel.
Mais je suis très discipliné, donc comme c'est vous qui êtes le maître des cérémonies, je fais ce que vous me dites. Bon, d'abord, moi je prends les deux scénarios de, du professeur Cohen. Je ne sais pas s'il n'y en a pas de troisième. Si c'est pour m'amener à m'exprimer sur la fiscalité du capital, j'ai envie de dire j'aurais la même approche que sur le reste. Quand je regarde, pour le coup, la situation où on en est par rapport à nos voisins, on ne croule pas sous le capital productif. Et quand je regarde les faiblesses françaises sur ce sujet par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on a insuffisamment attiré ou gardé le capital productif en France. Et il n'y a rien qui justifie l'écart qu'on a constitué ces 20 dernières années de chômage, qui est pour moi la pire des inégalités dans notre pays, entre les deux pays, grands pays voisins que sont la France et l'Allemagne, c'est le fonctionnement du marché du travail et c'est malgré tout la capacité à avoir du capital productif et de développer. Dans ce contexte-là, comme il n'y a pas que des économistes, mais il y a des acteurs économiques qui réagissent aussi à des stimulus, moi je trouve que ouvrir aujourd'hui, en sortie du débat, un grand débat sur la fiscalité du capital, à mes yeux, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de savoir comment je consolide du capital productif au maximum pour produire davantage en France. Je vous parle de là où je suis, hein, mais c'est ma priorité. Ensuite, ce que je constate, c'est que les inégalités de destin qui sont constituées, moi je n'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un scénario de faible croissance, ce que je sais, c'est que les mêmes scénarios existaient il y a 20 ans sur des tables américaines, que certains ont fait ce choix, que d'autres en ont fait d'autres, et qu'on est dans une économie des talents, de l'hyperconcurrence. La question pour moi est aussi de savoir comment je forme en France les gens qui vont réussir dans cet univers de plus en plus compétitif, à créer le maximum de richesses et en tout cas à construire des destins qui permettront dans notre pays de les construire. Et donc, dire, on considère que la priorité, c'est encore une fois une réponse de fiscalité, ce qui est notre tropisme collectif, c'est envoyer juste un signal sur la fiscalité du capital et c'est nous mettre potentiellement, alors qu'on est dans un environnement ouvert hein, et relativement concurrentiel, de réduire encore l'attractivité de notre capital productif dans le pays. Je pense que c'est aujourd'hui pas ce dont souffre principalement l'économie française quand je la compare à ses voisins. Qu'on lance une grande réflexion internationale sur ce sujet, j'y suis totalement favorable. Que ça avance au niveau de l'OCDE, si on pense que c'est un sujet international, j'y suis tout à fait favorable. Le faire en France, je pense que ce sera un contre-signal. Moi, je suis un peu pragmatique sur ce sujet du grand débat. Hein. Je pense que les mots sont profonds. Mais sur les sujets en particulier économiques, on adore avoir une réponse qui est fiscale. Je l'ai dit 2-3 fois à nos concitoyens, on est rentré dans ce débat, c'était le déclencheur, c'est beaucoup plus profond le mal, mais sur une taxe que payaient trop certains. Je ne crois pas qu'on en sorte en faisant payer d'autres. Et je ne parle pas des débats qu'on a pu avoir dans notre passé, on est rapidement riche, même ceux qui ne pensent pas l'être. Et nous sommes dans un pays où, sur ces sujets, les signaux qu'on peut envoyer sont vite contraires. Donc avoir un débat à l'international sur les transformations du capitalisme, faire avancer au niveau OCDE un meilleur fonctionnement de la transmission du capital, oui. Mettre en France un système qui, sur ce sujet, soit à la pointe technologique, moi, j'y suis pas favorable parce que je pense que notre faiblesse aujourd'hui, elle est plutôt dans notre incapacité à attirer, à consolider du capital productif qui crée des emplois. Parce que moi, je ne sais pas créer aujourd'hui des emplois autrement qu'en encourageant des gens ou à créer des entreprises ou à développer celles qu'ils ont créées. Parce que de l'emploi public, quand je me compare aux voisins, j'en ai déjà aussi beaucoup plus que les autres. Voilà, donc je suis un peu pragmatique sur ce sujet, mais je pense que ce ne soit pas le cœur de la réponse. Par contre, je suis très sensible à la problématique héritage et construction de son destin. Mais je ne pense pas qu'on y réponde là encore avant tout par la fiscalité. On y répond par l'émergence des talents. Ceux qui ont créé Google n'avaient pas de capital hérité. Mais ils ont eu un système où la mobilité sociale a mieux fonctionné que peut-être dans le nôtre. La question pour moi, c'est comment je vais faciliter la création de nouveaux capital par des talents, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale. Que ce soit d'ailleurs du capital financier, du capital productif, du capital humain, du capital de reconnaissance. Et mon problème aujourd'hui, quand je regarde la France, c'est que la création de capital nouveau par des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui sont issus de l'immigration, qui viennent de certains quartiers, n'est pas suffisamment importante. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon système éducatif, dans mon enseignement supérieur et dans les représentations et les modes de fonctionnement que j'ai dans la société, y compris d'ailleurs dans le recrutement que j'ai au sein de l'État.
Oui, donc on va reprendre la parole. Ludo, tu voulais intervenir ?
Donc ça, c'est la réponse de M. Macron. Alors, juste une remarque, vous remarquez justement que d'abord, elle est embarrassée. la réponse du président.
Complètement, oui.
Parce que il aurait bien aimé que, là, d'abord il connaît parfaitement les idées de Daniel Cohen, mais il aurait bien aimé que la question soit noyée par d'autres et qu'il ait pu y répondre de façon un peu plus large, sans avoir à se confronter à cette réponse directe de la fiscalité du capital. On le comprend légèrement parce qu'il a passé les premières années de son septennat à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à supprimer l'ISF, alléger les entreprises de charges sociales, soi-disant injustes, alléger la fiscalité justement sur les actions.
Bien sûr.
Et donc, l'air de rien, son petit chiffre en milliards d'euros, donc c'est-à-dire ça fait quand même au moins 25 milliards d'euros de recettes en moins pour l'État. Donc évidemment qu'après vous allez avoir des petits problèmes pour combler votre budget. Pour complaire aux critères de déficit de Maastricht et bien entendu qu'à la limite augmenter le prix du carburant, bon, c'est quand il y a un léger manque, voilà, et faire passer ça pour quelque chose d'écologique, voilà. Bon, et réduire l'assurance chômage, et voilà. Donc il est légèrement embarrassé. Vous remarquez aussi la hauteur de position, c'est-à-dire de faire sentir donc à Guillaume Herner qui présente l'émission que c'est lui le maître, mais que s'il le débat lieu, c'est bien parce que le président l'a décidé.
Oui, il est
et
malin.
Puis derrière, il y a une espèce d'ironie avec le professeur, hein, professeur Monsieur Cohen. Voilà. Alors sur le fond, on manque de capital productif. Ok. Alors, il faudrait rappeler ce que tout le monde sait déjà, c'est qu'effectivement, l'investissement est en baisse depuis 20 ou 30 ans, et que ça correspond aussi à la libéralisation à l'époque libérale dans laquelle on vit, qui a consisté à abaisser en permanence les impôts des plus riches. Et que un certain Keynes ou Galbraith ou même Roosevelt avait taxé au maximum les revenus du capital à 80% pour contraindre les hauts revenus à réinvestir
dans les entreprises.
Dans les entreprises.
Bien sûr.
C'était juste après la crise. Bon, ça, évidemment, on l'a oublié. Dans le même ordre d'idée, je veux dire, qu'a donc écrit quelqu'un, bon, certes, ça date de 1830, hein, mais c'était un monsieur Tocqueville. Qu'a-t-il donc écrit sur l'Amérique en 1830? Il a dit, l'Amérique est un pays formidable. Et vous savez pourquoi? C'est que les chances sont remises à égalité, les compteurs sont remis à zéro à la mort des personnes. C'est-à-dire que la fiscalité américaine permet de redistribuer tout. L'État prend. Et puis, on recommence tout. Et ça, pour lui, il était en 1830, hein, juste après la Révolution française, c'était une invention extraordinaire, une innovation extraordinaire qui garantissait à la fois que l'État fonctionne et qu'en plus les gens redistribuent éventuellement, mais enfin que...
Un repartage des richesses avant l'heure.
Bon, même si évidemment... voilà. Mais en tout cas, ça évitait l'accumulation de capital. Donc ça, évidemment, on l'a légèrement oublié. Et donc, on a envie de dire, oui, effectivement, il faut attirer les investissements en France. Alors, vous avez quand même, on a quand même bien remarqué que la courbe de la croissance et du chômage
stagne carrément,
était assez faible, et que en termes d'investissement, c'était pas génial. On pourrait aussi faire une remarque, libérer le capital productif, donc par exemple libérer l'ISF. Moi, si je suis imposé à l'ISF, à l'ex-ISF, vous savez, si je suis détaxé, j'ai quand même plus de chances et je suis plus en sécurité si je place mon argent à la bourse que si je vais l'investir dans une entreprise.
Bien
parce sûr. Que c'est fait pour ça, la bourse. Enfin, c'était fait pour ça avant la grande crise. Mais enfin, si je me débrouille bien, en 2-3 placements, ça me rapportera beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ce que font les gens majoritairement. Et la bourse, aujourd'hui, elle sert beaucoup à racheter. Ce qu'on appelle le marché secondaire de la bourse sert beaucoup à échanger des titres, au rachat de titres boursiers, c'est-à-dire à une fonction spéculative, beaucoup plus qu'au financement des entreprises. Et ça, c'est la bourse américaine qui le dit. Donc bon, c'est quand même bon, pourquoi pas. Alors, troisième argument, finalement, on a discuté de tout ça aux États-Unis. Alors oui, il y a aussi une question importante sur l'attirer des investissements, c'est que après, je vous rappelle que M. Macron a privatisé l'aéroport de Toulouse.
Exact.
C'est voilà. Récent, et il avait vendu ça. Oui. Très bien, je me souviens très bien. Il y avait un débat avec Philippot et il avait... vraiment mis Philippot dans les cordes en lui disant qu'il connaissait rien au dossier que lui. Ça... Alors évidemment, 3 ans après, l'aéroport de Toulouse, l'investisseur chinois qui était inconnu par les pouvoirs publics quand il a présenté au rachat de s'est présenté au rachat de l'aéroport de Toulouse, eh ben, a essayé de, une fois qu'il a pris le contrôle de l'aéroport, a tenté de taper dans le capital. C'était l'aéroport de Toulouse, au départ c'était un conglomérat et c'était de l'investissement public. Hein.
Absolument.
Et ça servait, c'était régional. Il a tenté de taper dans le capital accumulé pour ensuite, heureusement, les actionnaires, en l'occurrence les collectivités locales, ne se sont pas laissés faire, pour ensuite tenter de le revendre, enfin, ou être obligé de le revendre, une fois et demi son prix.
Ah oui.
Non, parce que les actionnaires ne se sont pas laissés faire. Et il l'a revendu parce qu'il ne pouvait pas prendre le contrôle total. Mais il avait quand même essayé de piller entre-temps. Et donc, en fait, cet investisseur sorti de ni Dave ni d'Adam, chinois ou pas chinois, peu importe, hein, en vérité, on a vu tout de suite l'effet de l'investissement étranger. Et je tiens à dire que lorsqu'on envisage de privatiser l'aéroport de Paris, tous ces entreprises qui font des bénéfices en réalité et qui se portent très bien, l'aéroport de Toulouse se portait très bien et se porte très bien. Il n'y a pas vraiment de nécessité comptable. On peut quand même se demander objectivement quelle est la finalité de la privatisation. En tout cas, c'est pas de créer de l'emploi, ça, manifestement. Et donc, c'est quand même un peu bizarre. Donc, l'investissement étranger, pas sûr que ça marche bien jusqu'à maintenant. Et puis, qu'est-ce qui reste alors comme argument hein, de Monsieur Macron? Alors, il y en a un qui est pas dit, et c'est le financement de sa campagne. Le financement de sa campagne, il faut savoir, selon Madame Julia Cagé, que Monsieur Macron, avec son parti créé ex nihilo, nouvellement, sans aucune base et sans aucune connaissance, a ramené 10 millions d'euros de dons, soit plus que les autres partis socialistes, y compris les Républicains, et que pour un parti qui vient de se créer comme ça, c'est tout à fait inédit. Et donc elle explique le procédé, hein, qui consistait à faire des espèces de repas et où la place à côté de Macron était une place qui était payée. Mmh. Et plus on payait cher et plus on était à côté de Macron. Et bien entendu, M. Macron a reçu tous les gens qui comptaient dans ce pays, et notamment toutes les grandes fortunes. Et certes, quand vous avez soutenu très largement, puisque ce qu'elle explique aussi, c'est que si vous voulez, quand c'est un parti de gauche...
Je crois qu'il y avait un plafond quand même en termes de budget, non?
Alors le truc, c'est que non, parce que c'est un plafond. Oui, c'est un plafond individuel.
C'est ça.
Mais du coup, voilà, alors du coup... Oui. Voilà, par biais, à la fin, si vous voulez, parce qu'il a quand même été chercher des financements aux États-Unis. Ah oui. Mais ce qu'elle montre bien, c'est qu'en fait, plus votre parti est populaire, plus vos dons privés baissent. Et par contre, plus vous êtes un parti bien à droite, vos revenus en fait augmentent grâce, enfin, les dons augmentent. Alors et ça, vous voyez, en fait, on voit aussi la politique qui a été menée. Le soupçon, c'est que effectivement, c'est finalement la collaboration, le soutien de toutes les grandes fortunes de France, qui fait qu'aussi, il va tenir les promesses qu'il a faites. Et donc, effectivement, la privatisation, la suppression de l'ISF, etc., etc. Et tout ça. Est assez documenté. Et donc, pour finir, hein, l'inégalité de destin, et c'est l'exemple américain, où il dit effectivement, d'une part, qu'aux États-Unis, on a baissé les charges. En fait, il le dit indirectement, c'est-à-dire qu'on a enlevé les impôts sur les plus riches, et c'est l'exemple à suivre. L'Amérique est devenue le pays de l'insécurité sociale, c'est comme ça que l'appellent les chercheurs, et effectivement, il a pu avoir une politique... de croissance ou d'expansion économique à crédit, c'est-à-dire que le déficit américain est un des plus élevés au monde et on comprend oui, puisque l'impôt sur les fortunes a été baissé à 30%. Et donc voilà. Et donc du coup, il reste cette fameuse égalité de destin. Et ça, l'égalité de destin dans les quartiers,
on n'y croit pas trop quoi.
Statistiquement, c'est quand même pas attesté. Et non. Puis même Google a bénéficié de l'investissement public de l'État américain pour permettre à l'informatique de se développer.
Merci Ludo. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone.
Est-ce qu'on peut bonsoir à tous et à toutes. C'est Christophe. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous.
Salut Christophe.
Bonsoir Ludovic. Tu as fait une démonstration extrêmement brillante.
Pesante.
Une politique d'inégalité liée aux dérives du libéralisme et du capitalisme. Il est évident qu'aujourd'hui, créer du capital humain, culturel, artistique ou financier, surtout en France, qui est un pays basé sur l'héritage et la rente, n'est réservé qu'à certaines formes d'élitisme d'entre-soi. C'est voilà, c'est, on va pas rappeler ce que disait Bourdieu sur le capital, mais enfin, on est dans l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle la plus totale et la mauvaise foi dans cette histoire, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, lorsque on est au minimum associé ou autre, les banques ne vous regardent pas de la même manière que lorsque vous faites partie, par exemple, de l'association des anciens élèves d'HEC. Ça coule sous le sens. Hein, il est évident que par rapport à ça, il y a clairement des réseaux hein, auxquels le citoyen lambda, c'est une inégalité de fait, hein, n'aura jamais accès. Et je vais même aller plus loin, parce que c'est pas un pamphlet anti-élite, ce que je dis. Hein. C'est une nécrose clairement des mécanismes d'enrichissement et de révélation de capacités et des talents de la personne. C'est que c'est bien tout le problème, c'est que les élites ont mis en place un système totalement autonomique, hein, et qui est tel, c'est que moi, que quand je rencontre effectivement des personnes qui sont très aisées hein, au niveau professionnel, ces personnes-là, par leur posture, ne serait-ce que leur manière de s'exprimer, les codes sociaux qu'il y a, me font comprendre clairement que je ne représente rien, que je fais partie de la masse des classes moyennes et que eux, ils ont accès à des pouvoirs et des ressources. Et je parle pas simplement d'argent, je parle aussi de ressources culturelles, de réseaux que je n'aurais jamais, moi, accès. Donc, on oublie toujours cette petite chose. C'est le paravent, c'est la fameuse, au niveau du capitalisme, la fameuse, comment dirais-je, le fameux slogan. Vous voyez, dans les années 80, la sélection révèle le talent, alors qu'en fait, la sélection révèle la souffrance. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, M. Macron, il change pas de logiciel. C'est-à-dire que c'est un libéral convaincu, il est premier de cordée, et il ne s'accordera que dans la logique des premiers de cordée. Or, comment on peut croire encore au capitalisme aujourd'hui et parler d'idées de croissance éternel dans un monde fini. Enfin, c'est aberrant. Je rappelle que, à partir, je crois, du mois de juin, maintenant, juillet, on consomme, nous, en tant que Français, hein, les ressources que produit annuellement pour se régénérer notre planète. À partir du mois de juillet. Il y a 20 ans, 30 ans, à cause du réchauffement climatique, du développement des économies du capital, on épuise les ressources de notre terre auxquelles on appartient. Ces personnes-là sont toujours dans ces logiques de scénario A et B. Et moi, je dis qu'il y aura de fait, hein, il y aura très certainement un scénario C qui peut être catastrophique, hein, qui est entre guillemets ce que j'appellerais la révolte de la terre, c'est-à-dire que la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique et tout ce que cela implique engendrera une mutation mondiale telle qu'on prendra sûrement une nouvelle guerre mondiale. La parole des dirigeants me dit mais à quoi bon se révolter contre le capital puisque nous ferons notre prochaine guerre avec des bâtons. Voilà ce que m'inspirait un peu le débat avec l'intellectuel et M. Macron. Aberrant qu'on ne change pas de logiciel par rapport.
Ah, mais je suis d'accord avec toi.
Alors, on va écouter la...
Merci, Christophe.
Alors, je sais pas, on va peut-être faire une pause musicale et puis on va écouter ensuite la deuxième partie de la réponse qui,
je suis de tout cœur avec...
Non. Je te conseille d'écouter la deuxième partie de la réponse qui est justement sur le revenu de base de Monsieur Macron.
Oui, tout à fait, je vais réagir.
Merci, Christophe. On écoute une petite chanson avant. Merci. Et oui, c'était The Clash, un groupe excellent, hein, comme moi j'aime beaucoup. On reprend cette émission, c'est l'émission Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Je suis avec Ludo au micro, salut Ludo.
Bonsoir.
Donc moi, Gilles, et également Sémi à la technique, merci à lui d'être là ce soir. Et puis, bien sûr, Christophe au téléphone, il est toujours resté au téléphone avec nous.
Et c'est
Christophe, il est encore là. On reprend cette émission, donc Ludo, je crois qu'il y a une troisième partie
Il y a une troisième partie qui est la réponse de Monsieur Macron sur le revenu de base, qui a donné lieu à une expérimentation dans 19 départements, et donc expérimentation qui n'a pas été prolongée par Monsieur Macron, et il va vous dire pourquoi tout de suite.
Ensuite, sur le revenu universel de base, la belle affaire. J'ai, à l'automne dernier, annoncé la stratégie pauvreté. J'ai dit que j'étais favorable et que nous allions lancer un revenu universel d'activité. Alors, il avait des différences profondes avec ce revenu universel de base, qui était en effet l'idée plutôt proposée par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle. C'est que c'était un système beaucoup plus, reposant beaucoup plus sur l'ouverture de droits, mais avec des devoirs. Et je crois d'ailleurs que notre société en a besoin, et qu'une partie d'ailleurs de ce qu'on peut voir, lire dans les tensions sociales qui existent aujourd'hui, c'est la tension qui existe entre les actifs pauvres et les non-actifs. Ce qui est un vrai sujet dans beaucoup d'endroits de la société. Et la proposition qui était faite par les 18 départements ne répondait pas à ce sujet. Alors que ce que le gouvernement a lancé et va commencer à expérimenter, conformément à un calendrier qui a été donné, y répondait. Et puis après, c'est une question de savoir qui est responsable de la politique sociale. Et donc, moi, je suis le premier à dire, on a commencé à le faire, on différencie, mais si on commence à dire des départements peuvent rentrer dans cette logique, à ce moment-là, je peux aussi laisser ouvert d'autres départements qui vont rentrer dans une logique qui est la suppression du RSA, de la même manière. Je crois que les choix démocratiques dans notre pays font que c'est au niveau, pour le coup, de l'État-nation, et donc du gouvernement et du Parlement, qu'avance cette idée. Et elle peut être tentée à l'initiative du gouvernement et du Parlement pour être initiée ou testée selon plutôt des engagements qui ont été retenus par nos concitoyens de manière majoritaire que de revenir par le truchement de propositions qui ne correspondent pas en effet à la politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement. Pas du tout sur l'idée d'un revenu universel, mais sur les conditionnalités de celui-ci. Donc j'assume ce choix parce que je pense qu'en méthode sinon... Sinon, c'est un autre choix. On dit qu'il y a une décentralisation totale de la politique sociale. Mais ça veut dire que quand on vote aux élections présidentielles ou législatives, on ne vote plus pour la politique sociale dans notre pays. Vous votez pour la politique sociale quand vous votez pour votre président de département et sa liste. Je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens aient retenu aujourd'hui.
Oui, alors Ludo, tu...
Oui, alors là, vous reconnaissez le vieil adage « diviser pour mieux régner » puisque M. Macron dit qu'effectivement, les tensions sociales de notre pays proviennent non pas de la pauvreté ou du chômage, mais de la tension entre les actifs et les inactifs. Ça, là, c'est sûr que quand tout le monde est réduit à, je sais pas, au SMIG, j'exagère, hein, mais quand 20% de la population est réduite au SMIG, on a tendance un peu, ou à RSA, on a tendance un peu à se bouffer le nez entre nous, ça je reconnais. Et qu'évidemment, c'est pas les salaires des porte-paroles du gouvernement, par exemple. Hein.
Qui se bouffent aussi entre eux, parce que...
Voilà, ouais. Mais pour d'autres raisons.
Pour d'autres raisons.
Qui sont le meilleur exemple. Alors ça, c'était... remarque préliminaire. Sur le fond, vous avez reconnu toute la centralité et la verticalité du pouvoir macronien, c'est-à-dire c'est le président qui décide.
Hein, c'est Jupiter.
C'est exactement ça. Puisque et d'ailleurs tout le monde s'aligne, hein, c'est notamment enfin le Parlement, enfin les gens au Parlement qui rejettent tout amendement qui ne correspondrait pas tout à fait à la philosophie macronienne. Alors on pourrait quand même faire une remarque, c'est que c'était une expérimentation, voir en fait l'idée de l'expérimentation, c'est de voir si les gens qui touchaient un revenu de base abandonnaient leur travail. C'est la grande question, c'est-à-dire si ça les soulageait, si ça les aidait en fait à la fois à retrouver du travail, avoir un niveau de vie à peu près correct. Et c'est une expérimentation qui a fait l'objet d'un passage devant le Parlement, c'est-à-dire d'une proposition de loi au Parlement, inadmissible pour un pouvoir présidentiel macronien, qui n'a pas vraiment l'intention de laisser le Parlement s'exprimer, et encore moins des gens de l'opposition dont il faisait partie hier, hein, puisque c'était un amendement du Parti Socialiste, venir quand même lui dicter sa politique, hein, parce que les Français, ils l'ont quand même élu. Alors, est-ce qu'ils l'ont vraiment élu pour lutter contre, je sais pas quoi, comment on appelle ça, l'assistanat ou des choses comme ça? J'en suis pas du tout certain. Ils l'ont peut-être élu grâce à une formidable campagne de presse et sur... sa belle gueule et ses diplômes, c'est possible. Et donc c'est bien dommage parce que ce projet avait été modélisé par l'Institut des politiques publiques, donc c'était quelque chose de très sérieux. Il s'agissait de verser un revenu de façon automatisée à tous les foyers, y compris aux 18 et 25 ans qui étaient exclus du RSA. Donc c'était quelque chose contre la pauvreté des jeunes, et en dessous d'un certain seuil du revenu médian. Voilà, et alors chose plus contestable, c'est que cette allocation regroupait au minimum donc le RSA, la prime d'activité, voire l'allocation logement. Donc on arrivait à une espèce d'allocation unique quand on pouvait pas travailler. Donc qui dit allocation unique, il y a toujours une peur de voir cette allocation fondre au fil du temps, hein, puisque, mais en tout cas c'est une allocation qui n'est plus différenciée en fonction des situations des uns et des autres, quoi. Ça peut être aussi un minimum vital, hein. Et mais voilà, mais monsieur Macron lui préfère, vous l'avez entendu, le revenu d'activité.
Oui, c'est-à-dire conditionné. Oui.
Et donc on a bien entendu envie de lui répondre, le revenu d'activité, c'est bien, à condition qu'il y ait du travail. Et je suis pas sûr que dans les régions où manifestent les gilets jaunes, il y en ait tant que ça.
Oui, et ouais, surtout le principe de droit et de devoir qui est très très particulier comme façon de penser.
Ça fait très années 30, hein, ça, vous savez, ouais, hein, ouais, Stéo, ouais.
C'est très gaulliste,
ça fait
quoi,
job. De Gaulle était même plus ouvert, je crois. Ça fait un peu de job à un euro à l'allemande,
ouais, c'est vrai,
ou
c'est
à zéro euro, un truc. Est-ce que Christophe a un commentaire?
Oui, par rapport à ça, donc le revenu universel, moi je rappelle des choses, au départ c'est deux visions du monde qui s'opposent. Parce que celui qui a vraiment commencé à expérimenter le revenu universel, celle de base, c'est en fait un multimillionnaire homme d'affaires kényan, je crois d'origine américaine, mais qui a versé à plusieurs milliers de familles kényanes très pauvres un revenu de base. Et en fait, l'idée, c'était, grâce à ce revenu, les enfants vont pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire acquérir du capital culturel, éducatif, et donc s'élever dans la société, et moi, je vais pouvoir avoir un retour d'investissement, c'est du vrai libéralisme, grâce aux talents qui émergent. Hein. Et puis, donc, ce revenu universel me permet aussi, du fait que j'investis, de pouvoir négocier des baisses de charges. Parce que c'est ça l'idée de fonds des libéraux. Certains courants libéraux sont pour le revenu universel de base parce que ça leur permet, en fait, c'est un gain de productivité et d'argent par rapport au coût du travail. Hein, déjà, d'une part. Et deuxièmement, il y a une autre vision, beaucoup plus, on va dire, humaniste, ouverte, qui consiste à dire, le capital crée une sélection naturelle très importante du fait des didactes et des critères de l'accès au marché du travail. Et il y a des personnes qui, pour des raisons de santé, pour des critères discriminants, comme par exemple l'âge ou la qualification, qui auront peu ou pas d'emploi. Donc, il est nécessaire d'avoir, pour leur dignité, un revenu universel de base, puisqu'on met en place ce système-là. Évidemment, M. Macron n'est absolument pas d'accord, déjà d'une part. Et non seulement il est absolument pas d'accord, mais ça on peut le comprendre, mais lui, ce qu'il veut, c'est, à travers la notion de droit et devoir, c'est retrouver le bénévolat. Or, une étude sociologique récente a démontré que le bénévolat lié au droit et devoir, c'est une forme de retour, une forme de travail gratuit. Donc, une forme de travail sans droit. Donc, une forme, ce qu'on appelle le travail sans droit, c'est tout simplement la définition, hein, de l'esclavage.
C'est comme le civis.
Pardon?
C'est exactement comme le civis. Le contrat civis, voilà, pour les jeunes.
Voilà. C'est démontré, le travail gratuit, ce qu'on appelle bénévolat, c'est développer des compétences sans avoir de couverture sociale, de droit à la retraite, c'est une forme de retour de l'esclavage. Et c'est là où on voit très clairement le projet, une des finalités du libéralisme. Hein, c'est le retour au 19e siècle, du statut de travailleur, le retour d'une certaine forme d'exploitation humaine très très forte et très oppressante. Voilà, donc bien sûr qu'il est contre. Maintenant, la question est évidemment, comme il est contre la répartition pour la lutte contre les inégalités entre la masse de la rente et des filles de l'économie de la finance et la productivité réelle. Or, là où ces libéraux se retrouvent en contradiction, et j'en arrêterai là pour ce soir, c'est le fait qu'ils sont pour la liberté économique sans contrainte sociale, sur le coût social, c'est-à-dire qu'on appelle les charges, hein, la protection santé, l'assurance vieillesse, toute notre bonnette sociale qu'on a éduquée en disant, comme la sélection révèle au talent, on va mettre tout au privé.
s'ils oublient bien, c'est que lorsque ils créent de la richesse qui se retrouve ensuite en tant qu'entreprise en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à l'État. Voilà.
Oui,
oui. Ils sont contre l'État et le fait que l'État réglemente, etc. Mais ensuite, dès qu'une entreprise importante est en difficulté, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent l'intervention de l'État.
Nationaliser les pertes, privatiser
voilà,
les bénéfices.
Voilà.
Tout à fait.
Maximiser les profits.
C'est ça.
Non, non, mais ça peut être un second, on peut dire révolutionnaire, hein, ou pré-révolutionnaire, mais c'est une réalité socio-économique d'aujourd'hui. Donc, dans quel monde vit-on, quoi? Tout simplement. Voilà.
Merci Christophe, en tout cas, pour ton intervention.
Je dirais juste un dernier mot par rapport à ça. Le point pour voter, c'est très très peu d'argent mis sur la table par rapport au profit du CAC 40, par rapport au crédit impôt compétitivité et emploi, c'est-à-dire le CIC, puisque le CIC, c'est 20 milliards sur plusieurs années, hein. C'est des dizaines et dizaines de milliards. C'est une goutte d'eau par rapport aux allègements de charges fiscales qui ont été faits aux plus aisés. Et je rappelle une chose, et un marqueur social fort, c'est qu'à la base, l'impôt sur les grandes fortunes, l'ISF, hein, qui était un marqueur de gauche, hein, à la base, ça a quand même été un outil d'investissement dans l'économie réelle. C'est-à-dire que quand on paye l'ISF, on peut avoir des exonérations si on met son argent en prenant des risques par rapport à des jeunes entreprises, des entreprises qui ont des projets innovants. Et ça, on l'oublie. C'est un outil de création de richesse, mais aussi de création technologique, hein, et de création de nouveaux produits. Et ça, on l'oublie. Et c'est pour ça que c'est une quelque part, c'est complètement incohérent, hein, de dire en tant que libéral, je suis pour la sélection des talents, je suis pour une économie qui innove, et dire ensuite, ah, j'ai créé un outil pour vous aider, pour qu'ils aient la possibilité, en ayant des déductions, d'investir dans ce que innove et qui peut créer de la richesse, mais je vais quand même m'enlever cet outil. Enfin, c'est aberrant. C'est une contradiction.
Oui. Et tu sais que si c'est Frédéric Lordon, donc économiste atterré, qui en parle dans une vidéo sur YouTube, hein, puisqu'il donnait à un moment donné une. Il parle de l'ISF, mais il parle également une autre vidéo de sa lettre qu'il a donné réponse à Macron qu'il avait invité au grand débat. C'est passionnant. Peut-être qu'on en essaie d'en parler la semaine prochaine.
On en parlera, qui était donc son intervention brillante
tout à fait.
Le 14 mars à la Bourse du Travail.
Tout à fait. Sur 100 euros investis par un riche à la Bourse, il y a 96 euros qui vont à son enrichissement personnel et 4 euros qui vont au capital d'une entreprise.
Tout à fait.
C'est incroyable.
Mais absolument. Et des masses d'argent, on en a.
Oui, on en a. Il y a de l'argent
dans les bras du patronat. Mais je voulais ajouter, hein, l'ISF rapportait de l'argent, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, du fait de la bulle immobilière, il y avait, entre autres, hein, la bulle immobilière, en réalité, il y avait de plus en plus de gens qui payaient l'ISF. Et du coup, l'ISF était un impôt rentable et il n'y avait pas de gens qui partaient pour fuir l'ISF.
Ah, mais absolument.
Donc, aucune raison de supprimer, quoi.
C'est
une complainte délirante. Les riches, les premières tranches d'ISF en France par rapport à des gens qui ont des revenus très aisés ne sont pas des facteurs et des motifs qui amènent une personne ayant des hauts revenus à quitter le territoire français.
Absolument.
Sauf les très très
cas exceptionnels. Par contre, la transmission du capital, c'est-à-dire les impôts sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, je ne parle pas de l'impôt sur les grandes fortunes, amène ces revenus très aisés, mais ça c'est un gros débat sur la fiscalité, amène ces revenus très aisés à pratiquer ce qu'on appelle l'optimisation
fiscale. Et surtout dans le cadre des grandes entreprises. Hein. On l'a bien vu avec Carlos Ghosn.
Oui. Merci Christophe.
Je vous remercie.
Allez, bonne soirée à toi.
Oui, je vous souhaite une bonne soirée.
Ok.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Je t'écoute.
Oui, on n'a pas trop de passer une chanson. Donc cette émission va bientôt
se terminer. Oui,
alors je voulais juste signaler trois petites choses. D'une part que les assistantes maternelles qui sont à l'origine du mouvement des Gilets jaunes ont manifesté pour la 20e édition, c'était samedi dernier, de la manifestation des Gilets jaunes. Puisqu'effectivement, en fait, elles sont concernées par la réforme de l'assurance chômage. Vous me direz, mais comment ça, elles travaillent? Pourquoi elles seraient concernées? Eh ben, vous savez qu'elles font partie de ces gens qui font du travail en miettes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que, alors évidemment, elles travaillent pas à des horaires forcément éclatés, mais elles sont très dépendantes, hein, des parents qui placent leurs enfants, de préférence donc à côté de chez eux, selon des critères très bien définis par le conseil départemental, et que la rémunération varie énormément en fonction de la zone. Si vous faites garder votre enfant sur Paris, une assistante maternelle ne touchera pas la même chose que si elle est à Saint-Denis. Et donc effectivement, c'est dans des zones où elle gagnait déjà pas beaucoup, mais en plus on leur supprimait des jours de carence. Les jours de carence, c'est les jours où vous n'êtes pas payé par l'assurance chômage. Enfin, on va leur supprimer bientôt, du fait de l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage, qui sera décidée par décret par Monsieur Macron, hein, après l'échec des négociations UNEDIC. Et donc elles vont manifester, puisqu'effectivement les témoignages sont assez terribles. Elles peuvent être payées à 3 euros de l'heure, ce qui est quand même assez ridicule. Et puis effectivement sur des horaires, sur une amplitude horaire qui est énorme, tout simplement parce qu'il y a effectivement des parents qui peuvent travailler très tard. Et donc elles ont énormément de mal en fait à boucler les fins de mois. Et donc voilà, donc elles ont manifesté à Brest, à Marseille. Et puis évidemment elles vont continuer
oui,
le combat
faut
et elles
faut font partie bien voilà. Sûr. Oui.
Elles font partie de ces professions d'aide à la personne et pourtant indispensable au bon fonctionnement des cadres de la commune française. Voilà, donc ça c'était le premier la première petite nouvelle. L'autre chose, c'est que ça ne vous a peut-être pas échappé, mais des membres de Génération Identitaire ont occupé les toits de la CAF de Bobigny entre 7h et midi. C'était le 29 mars, et avec une immense banderole qui disait les allocations aux Français. Donc alors on est bien embêté, parce que nous on est pour le droit de grève et le droit d'occupation, puisqu'on est occupé.
On est occupé
seulement seulement nous on est pour que les gens aient des droits et pas pour manifester pour qu'on leur supprime des droits, en plus sur un critère qui est parfaitement discriminatoire, parce que on peut être effectivement avoir la nationalité étrangère et être depuis 25 ans en France. Et oui, ça c'est vieux, puisque on vient de voilà. Et donc c'est tout à fait un scandale, et en plus c'est évidemment un appel à la suppression de tout ce qui est allocation sociale, mais enfin soi-disant lutte pour l'assistanat qui n'existe que dans le fantasme de gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans les quartiers. Voilà, puisque en général les allocations logement ou les allocations sociales, on en bénéficie quand on ne peut pas travailler à côté, ou qu'on a vraiment des revenus tout à fait inférieurs. Donc il y a des gens notamment de la France insoumise qui ont carrément demandé la suppression de l'interdiction de ce mouvement d'extrême droite, hein. C'est-à-dire qu'il y a la droite de Marine Le Pen, et qui s'appelle le très mal nommé Génération Identitaire.
Super, Lino, très bien.
Voilà. Donc, alors, je vais juste finir sur le fait que c'était la fin du... la fin de la trêve hivernale le 1er avril. Et donc, sur ce constat triste et qu'on connaît depuis longtemps, c'est que les expulsions... Au moment de la trêve hivernale, vous savez, les expulsions deviennent exécutoires au moment de la trêve hivernale. Les jugements peuvent être rendus, et c'est le 1er avril, quoi. C'est un poisson d'avril, bien sûr.
Qu'on expulse les gens.
Tout à fait. Et donc, les expulsions ont augmenté en 10 ans de 50%.
Oh,
et c'est
énorme.
Dire que énormément de gens sont concernés par les augmentations de loyers faramineuses dans ce pays qui ne fait qu'alimenter la rente. Et je ne suis pas certain que Monsieur Macron ait réellement lutté contre ce fléau.
Moi, je pense qu'il n'a pas lutté contre ce fléau, justement. Raison.
Malgré
raison.
La suppression de l'ISS. voilà.
Très juste. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Et bien sûr, elle se termine. Merci à Ludo et à Christophe d'avoir participé également à cette émission. Merci à Sémi pour la technique. On vous retrouve dans un mois. Et maintenant, on vous laisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Bisous.
Bonne soirée. Man leads us down.